printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, The Audio Agency.
Quand j'ai su que je venais parler d'optimisme, donc de positivité, je me suis dit, j'ai eu de la chance. La baraka dès le début. Pourtant, je viens d'une extraction sociale extrêmement modeste, ce qu'on appelait les cités ouvrières du haut de Ménilmontant et ensuite les quartiers de l'Est parisien. Mais d'avoir la chance de naître dans une famille où on n'avait pas le droit de se plaindre. Ne te plains pas, trouve des solutions. Et puis d'avoir eu un grand-père qui avait fait 14, qui disait toujours, sur un ton de l'humour, souvent, il disait « Ah non, mais c'est pas grave, il n'y a que la mort qui est irréversible. » Donc d'ailleurs, ça replaçait les mauvaises notes, la mauvaise scolarité à sa place. Et puis, ça me mettait toujours dans la posture de regarder droit devant moi. Et quand ça allait mal, d'aller me coucher et de me dire « ça ira mieux demain matin ». Donc ça construit le personnage. Je ne trouve pas ma place dans l'école républicaine. Donc l'école républicaine me remercie assez vite, à 13 ou 14 ans. Je ne comprends pas ce que me veut l'école. Je trouve que c'est formidable, mais je ne comprends pas pourquoi on veut m'apprendre à tout prix le français, pourquoi on veut m'apprendre à compter. Moi, je m'intéresse qu'aux livres d'histoire et de la vie de Bonaparte et de la géographie, parce que comme on voyageait peu dans ma famille, au moins il y avait des images qui me montraient d'autres destinations. Vous comprendrez très vite que je me fais remercier de cette école Pelleport pour ne pas pouvoir entrer au collège. On me propose une sixième aménagée, on appelait ça une sixième de transition, puis une cinquième de transition, je ne sais pas par quoi je transitais, mais c'était assez inquiétant et les gens étaient plutôt sympathiques avec moi, il n'y avait rien à faire dans ces classes. Et puis, il faut retenir ça, on est dans les années 72, 73, 74, et je rencontre encore dans ces cités ouvrières des hommes accomplis, des hommes qui, pour certains, avaient été au Parti communiste, qui vendait l'UMA le dimanche, avec qui je discutais, des hommes qui avaient été militaires, comme mon oncle, qui avait servi en Indochine et en Algérie, avec des hommes qui avaient eu des vies épanouies, comme elles se pouvaient. Ils n'avaient pas réussi forcément économiquement, mais ils s'étaient épanouis dans la vie. Donc ils m'ont indiqué des directions, ce qui n'est plus vraiment vrai aujourd'hui, et on y reviendra. Alors, quand on me propose les Compagnons des Devoirs, j'entre chez les Compagnons des Devoirs, je suis reçu place Saint-Gervais à Paris, et la première chose que fait le premier en ville, c'est de vous parler de la noblesse de l'ouvrier. Pas de l'ouvrier, si t'es pas sage, tu finiras en apprentissage, pas celui qui va être soumis à un dictat, pas l'ouvrier qu'on fait défiler de temps en temps le poing levé pour l'utiliser comme une masse laborieuse électorale, mais la noblesse de l'ouvrier, avec une phrase qui me reste toujours, que j'ai écrit plusieurs fois, « Salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. » L'anti-low-cost. Et ces hommes, où il n'y a pas de règles écrites chez les Compagnons du Devoir, il n'y a pas un règlement qui nous dit qu'il va falloir être fraternel, il n'y a pas de règlement qui nous dit qu'il va falloir partager l'enseignement, qu'il va falloir transmettre, mais des valeurs d'homme à homme et des valeurs de parole donnée. Et je me souviendrai toujours de ce premier en ville qui nous faisait monter sur le toit de la place Saint-Gervais pour nous indiquer les toits de Paris en nous disant, voilà, ça c'est le travail de nos aînés, les charpentiers. Et ce que vous voyez derrière vous est un grand symbole du compagnonnage, c'est la Tour Eiffel. Ces hommes qui n'ont jamais mis de conflit entre tradition et innovation, et on y reviendra. On considérait que la charpente était en bois, et finalement, Eugène Milon, qui ne connaissait que la charpente de bois, va accepter de travailler avec Gustave Eiffel pour construire la Tour Eiffel, le plus beau symbole ouvrier qui existe. Eugène Milon va dresser le levage de la Tour Eiffel avec 300 compagnons levageurs. Et toutes ces histoires vont forger la mienne, d'homme à homme. Donc, je vais découvrir l'histoire des compagnons, je vais découvrir pas comment faut apprendre à l'école, mais pourquoi faut apprendre à l'école. Et ça, ça va être important. Quand j'arrivais, et je vous raconte l'anecdote, je faisais la crème pâtissière, on me disait c'est 3 litres de crème pâtissière par jour. Je dis oui, très bien. Et puis il y a des fois, il y avait un peu moins de clients, on me disait tu feras 2 litres et demi. Et je devenais bleu. 2 litres et demi, il faut diviser. Et immédiatement, il y a un ancien qui déchirait la poche ou un demi-morceau de sac de farine qui m'expliquait la division et elle rentrait toute seule. Pas comment on apprend, mais pourquoi on apprend. Voilà ce que je vais apprendre chez les Compagnons du Devoir. Ensuite, effectivement, d'avoir vécu dans ces quartiers, je n'avais que de cesse de vouloir en partir. Et j'ai toujours pratiqué le judo, je le pratique encore. Quand j'étais chez les compagnons, je continue à pratiquer. Arrive le moment du service militaire, je reviens de la ville de Nantes et je reviens dans la cité pour faire mes 3 jours. Et vous savez, dans ces cités, certains d'entre vous la connaissent forcément, eh bien tout se règle la nuit. Et on était entre copains, on avait chacun notre feuille pour aller faire notre service militaire. Et on s'est dit, t'as vu, on a fait notre apprentissage, on a donné 3 ans de notre vie pour faire notre apprentissage, et on est de nouveau de retour dans cette cité qu'on voulait quitter. Et l'idée nous a pris d'aller nous engager. Donc on est allé à la caserne de Reuilly, et sur les 4 individus qui s'engageaient, 2 ont choisi la marine nationale, et 2 autres l'armée de terre. Et moi, je ne savais pas quoi faire dans l'armée de terre. Et l'officier qui était là, qui me faisait le recrutement, me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es sportif, il faudrait aller dans les troupes de marine. Je fais du tiens, les marines, les voyages, ça peut me parler. Et je vois une affiche avec le général Bijard, et il y avait marqué, si tu es félin et manœuvrier, tu seras aéroporté. J'ai dit, ben ça, c'est bien. Et je me suis retrouvé au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Et je dirais, avec beaucoup d'humilité, pas tout de suite pour le drapeau français. Mais parce que ce 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine avait un projet. Le projet du fanion, le projet des copains, le projet de la camaraderie. Et puis évidemment, ça a été les théâtres d'opération. Mais je garde de cette période, encore une fois, cette fraternité d'hommes, ces choses qui ne se définissent pas, le sens de l'honneur, le sens de la camaraderie, la confiance en filigrane, qui doit être dans ces moments-là, et je vis toujours ça avec beaucoup d'émotion. Des fois, quelques mois après, quelques copains m'écrivent et me disent, tu sais, le Liban, on nous hante toujours, ou telle situation, ou tu te souviens de ça, mais il y a toujours un lien qui nous rapproche, et on sait très bien que s'il y en a un jour qui est dans la merde, on sera là pour lui filer un coup de main. Ça, c'est ma 2e expérience de vie. Et quand je suis rentré de l'armée, évidemment, c'est imposé à moi de reprendre mon métier. Alors évidemment, il y a un moment difficile à vivre où il faut... J'étais plus vraiment pâtissier parce que pendant ces quelques années, je n'avais pas œuvré en tant que pâtissier. Il fallait donc repenser la formation professionnelle et puis me dire est-ce que la France a encore un projet pour moi. Et je m'apercevais que plus vraiment. J'avais un petit peu disparu des écrans. Les compagnons de devoir n'étaient pas très fiers que j'ai servi en zone active. Donc voilà, j'étais un petit peu perdu et il a fallu reconstruire une formation professionnelle. Pour la reconstruire, je suis parti en Australie avec la phrase de nos aînés en disant « Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte ». Et je suis arrivé en Australie sans parler anglais et je tombe sur un chef autrichien qui travaillait à l'hôtel Regency de Sydney. Et je dormais dans une Salvation Army et j'avais repris mon métier de boulanger-pâtissier. Alors je travaillais comme ça, mais je ne pouvais pas louer un appartement parce que je ne gagnais pas suffisamment ma vie. Donc le chef me dit « Tu devrais trouver un 2e job ». Donc je vais postuler pour le poste de cuisinier au service des banquets de l'hôtel Regency. Et je lui dis, mais je n'ai jamais été cuisinier. Il me dit, mais t'es français, tu connais forcément la cuisine. Donc, ouf, enfin, la France à mon secours. Et je vais faire illusion, comme ça, avec un petit livre de cuisine française qui s'appelle Gringoire et Saunier, que je vais apprendre par cœur. Et je vais, avec mes équipes de Philippins et d'Australiens, de tous ces émigrés qui étaient là avec moi, en tant qu'émigré aussi, on va partager ces moments de cuisine française. Et puis, je vais rentrer en France. Puis, je veux dire, la cuisine, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît pourquoi, la cuisine ? C'est pas de devenir un chef nourricier, c'est pas d'avoir à nourrir des quantités de gens, mais ça me recrée du lien. Ça me permettait de nouveau rentrer en contact avec les personnes. C'est ça la force de la cuisine. Donc je dis, je vais apprendre ce métier. Alors modestement, je rentre en France. On croit toujours que quand on émigre, on revient avec beaucoup d'argent. C'est faux, je vous rassure, je suis revenu, j'avais pas un sou en poche. Et je vais m'inscrire en candidat libre au CAP de cuisinier, au CFA de la rue Béliard à la Porte Saint-Ouen. Là aussi, c'est la magie des hommes. Je vais rencontrer M. Genoux et M. Labatte, professeurs vacataires. On dit beaucoup de mal souvent de l'éducation nationale, mais il y a encore des gens pleins de passion dans ces métiers et qui m'ont filé un coup de main. Et je me rappellerai toujours que nous avions 6 mois pour passer ce CAP et qu'au bout de 3 mois, les crédits à la formation professionnelle avaient été coupés. Eh bien, ces chefs amenaient de chez eux des poulets pour qu'on apprenne à brider les poulets. Et je ne les remercierai jamais assez. Et hélas, M. Genoux nous a quittés. Mais M. Labatte, que je peux encore aider de temps en temps, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et je lui raconte toujours ça et quelque chose que j'oublierai jamais. Donc, je vais passer mon CAP. Et M. Genoux me dit, mais tu sais, en France, diplôme ne veut pas dire employabilité. si tu n'es pas fils d'eux ou élève d'eux, ça va être très compliqué dans ton métier. J'ai dit, merde, ça, c'est pas normal. C'est encore une fois la cité qui nous marque. C'était encore une fois marqué du doigt par rapport à notre extraction sociale. Donc je me suis dit, c'est pas juste et je n'ai pas à accepter ça. Je n'ai pas forcément à le combattre violemment, mais je n'ai pas forcément à l'accepter. Donc je vais reprendre mon tour de France et je vais rencontrer un homme extraordinaire, Georges Pralu, qui hélas lui aussi nous a quittés, et qui va m'inviter chez un monsieur dont vous avez tous entendu parler, qui est Bernard Loiseau. Et je dis au chef Bernard, est-ce que vous embauchez un commis ? Et le chef Bernard me dit, écoute, non, enfin, il lisait mon CV en même temps, donc il a vu que le CV était assez creux. Il me dit, non, j'embauche pas, mais comme tu as fait tous ces kilomètres, tu restes là et tu vas goûter ma cuisine. Et là, je prends une grande leçon, parce que on peut tout dire de Bernard Loiseau, mais c'était un auteur. C'était un chef et un chef d'entreprise. Et le chef Bernard me fait goûter, je me rappelle comme si c'était hier, les cuisses de grenouille, la crème d'ail, tout y est passé. Comment il a racheté l'auberge d'Alexandre Dumaine, il me raconte tout ça. Je rentre à Paris, toujours sans travail, je me présente dans deux maisons. La Marée, où je demande s'il ne cherche pas un commis. On me remercie et on me remonte la sortie très très vite en me disant « Mais non, ici il faut des références, monsieur, vous n'en avez pas, au revoir. » Et puis, je vais frapper à la porte du restaurant Le Taïwan. Et j'arrive.
Vous avez plutôt bien choisi.
Hein. Oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et je frappe à la porte de chez Taïwan et je vois Claude Deligne, meilleur ouvrier de France, 30 ans, 3 étoiles. Espèce d'homme tutélaire comme ça, avec son accent du sud-ouest. Je lui dis, chef, est-ce que vous cherchez un commis ? Et il me dit oui. Il y en a un qui est parti ce soir. Tu arrives d'où ? J'ai dit, chez Bernard Loiseau. Et il m'a dit demain 8h. Quand il m'a dit demain 8h, je le remercie là où il est, ce chef, quand il m'a dit demain 8h, je suis arrivé à 6h du matin. Et j'ai commencé à éplucher, à essayer de voir dans la cuisine ce que je ne pouvais potentiellement pas comprendre. Et au bout d'un an de vie passée avec ce chef, qui avait tout compris de ce qu'était un leader, que le leader, ce n'était pas un grade, c'était l'exemple. Et que l'exemple était la seule preuve de l'autorité. Et quand vous ne saviez pas tailler une échalote, il prenait son couteau et il vous montrait comment on taillait une échalote. Et j'ai gardé ça de lui. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, la cuisson et maîtrise du temps. Ça, c'était le chef Claude Deligne. Et puis au bout d'un an, j'avais passé tout ce temps avec l'armée, j'avais passé un an chez lui, et il me dit, t'es trop vieux. 24 ans pour être commis, c'est pas possible. Tu vas me mettre 5 noms sur un papier et je vais essayer de t'aider pour te faire progresser plus vite que les autres. Donc je suis allé à la FNAC Wagram qui venait de se construire, j'ai pris tous les guides existants et j'ai noté tous les chefs qui avaient 3 étoiles et puis au moins 19 sur 20 Hugo et Millot. Et je suis tombé évidemment sur Alain Chapelle, Jacques Maximin, des grands personnages comme ça, Michel Guérard et d'autres. Et puis il m'a fait rencontrer Alain Chapelle, il m'a fait rencontrer effectivement Michel Guérard, il m'a fait rencontrer Joël Robuchon. Et j'ai travaillé dans toutes ces maisons, et quand j'ai travaillé chez Roger Robuchon, au Jamin, je m'en souviendrai toujours, le chef me prend et constate que quand même je suis un peu vieux pour être commis. Il me dit, est-ce que tu parles anglais ? Je dis, ah, ça c'est encore un coup à l'armée, style l'armée française, tu parles anglais, corvée de patates. Et il me dit, si tu parles anglais, je peux te faire voyager, est-ce que tu voudrais partir au Japon ? J'ai dit, écoutez, je parle anglais, oui, mais au Japon, je ne vois pas à quoi ça va me servir. Et comme j'étais judoka, j'ai obtenu par l'école Kodokan un visa étudiant-travail. Et j'ai continué à pratiquer le judo et le kendo au Japon. Et en même temps, je pouvais travailler à l'hôtel Okura grâce à Joël Robuchon. Voilà un petit peu mon parcours de vie. Alors vous comprendrez que dans ce parcours de vie, pourquoi je suis resté positif, pourquoi je suis resté pas dans l'aigreur, pas dans le combat inutile, mais dans l'idée de tracer une voie pour qu'il y ait un chemin, pour qu'il y ait un projet.
Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com.